I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 9 and verse 57.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à présent dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 57. L'évangile de Luc, chapitre 9, verset 57. Comme ils étaient en chemin, un homme lui dit : Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. Et notre sujet, c'est Christ conseille ceux qui le cherchent. Et c'est un passage important. Nous pourrions l'appeler le mystère des trois disciples qui semblent être sincères ou prêts à servir le Seigneur. Mais les trois retournent. Ils ont hésité ou ils étaient réticents eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui est allé de travers ? Ces trois personnes sont reparties et n'ont pas suivi Christ. C'est assez tôt dans l'évangile de Luc, mais cet événement nous dit qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu dans la prière et qui ne reçoivent aucune réponse. Dieu n'œuvre pas en eux et Dieu ne répond pas à leurs prières. Et nous avons ici la réponse. Et d'autres passages également de l'Écriture répondent à cette question. Pourquoi est-ce que ces trois disciples s'en vont et repartent ? Ils sont près du Seigneur, c'est pendant son voyage, mais ils ne reçoivent aucune réponse du Sauveur. Ce n'est pas difficile de venir à Christ, c'est la chose la plus facile dans tout le monde. Et cependant, il y a des obstacles, il y a des barrières. En nous, il n'y a pas de barrière pour Dieu, mais toutes ces barrières sont en nous. Et nous les voyons dans ce texte. Premièrement, le premier homme, c'est cet homme qui avait les yeux fixés sur cette terre, au verset 57, comme ils étaient en chemin. Il voyageait sur le chemin. Un homme lui dit, et écoutez la manière emphatique par laquelle il parle, il est déterminé. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il est décrit ici comme étant un certain homme. Mais dans l'évangile de Matthieu, il y a un peu plus d'informations qui nous est donnée. C'est un récit plus court, mais il est dit un peu plus. Que cet homme était un scribe. Et ceci nous surprend. Parce que les scribes étaient souvent contre Christ. Ils faisaient partie du clergé de l'époque, des chefs des Juifs. Et les chefs des Juifs croyaient en ce temps-là, et ils étaient dans l'erreur, qu'il y aurait un Messie, mais ils croyaient que quand le Messie allait venir, qu'il serait un Messie politique, quelqu'un qui allait les délivrer politiquement pour redonner la puissance à leur nation et pour les délivrer de l'occupation romaine. Ils ne s'attendaient pas à un Messie spirituel. Celui qui allait venir pour pardonner les péchés des hommes et des femmes, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. C'est là ce dont parlaient tous les prophètes, c'est là ce qui a été promis dans l'Ancien Testament, mais ils n'enseignaient pas ceci au temps de Christ. Les chefs des Juifs enseignaient qu'il y aurait un Messie politique, terrestre. C'est là ce que les scribes enseignaient. Les scribes étaient des enseignants. C'était là leur travail, leur profession. Ils étaient des experts de la loi. Et souvent, dans le Nouveau Testament grec, ils sont appelés des hommes de loi. Ils essayaient de comprendre les Écritures de l'Ancien Testament. Ils aimaient les débats intellectuels. Quelle est la loi la plus importante? Et toutes sortes de choses de ce style. Et ils étaient impliqués dans ces grands débats plutôt que de comprendre le but de Dieu et ce qu'il faisait et d'étudier les prophètes. Mais ils connaissaient bien la Bible et ils connaissaient suffisamment pour réaliser que Christ, le Seigneur, connaissait la parole de Dieu plus qu'aucun d'entre eux et cet homme était fasciné par sa prédication. Dans l'évangile de Matthieu, il est décrit comme étant un disciple, non pas un disciple parmi les 12, bien sûr, mais l'une de ces personnes qui suivaient Christ partout où il allait. Il voulait être là où se passait l'action. Il voulait voir tous les miracles, toute guérison, et il a vu beaucoup de guérisons et il admirait Christ. Il était stupéfait devant lui. Il voulait entendre son enseignement, sa manière d'expliquer les Écritures, ce qu'il disait. Et jour après jour, il se disait « Oh, je n'ai jamais compris ceci, je n'ai jamais réalisé ceci, ceci est vrai, ceci est logique, oui, il a raison. Pourquoi est-ce que nous n'enseignons pas ces choses ? Christ a enseigné les doctrines, il enseignait si bien. Oh, si je pouvais être un enseignant tel que lui, se disait le scribe. Ce scribe a probablement été critiqué parce que tous ses collègues étaient contre Christ. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Cet homme peut-être est allé partout pour suivre Jésus en Galilée, de village en village. Mais il était un homme qui, de manière évidente, était fasciné par l'enthousiasme et par la foule et l'action qui se passait là. Et quand il s'adresse à Christ, vous remarquez qu'il ne l'appelle pas rabbi ou enseignant, mais Seigneur, mon Seigneur suprême. Il croit qu'il est le Messie. Peut-être qu'il a la mauvaise idée par rapport à ce que le Messie va faire, mais il croit qu'il est le Messie. Ainsi, il fait cette grande déclaration. Seigneur, Seigneur suprême, je te suivrai partout où tu iras. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Partout où tu iras, je te suivrai. Je pense que probablement ce scribe savait qu'il y aurait la souffrance et des difficultés. Les chefs des Juifs, la plupart des scribes, des pharisiens, étaient contre Christ et ils savaient qu'il complotait pour le faire mourir, pour l'arrêter. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à l'arrêter. Sa puissance émanait et il passait au milieu d'eux. Mais lui, il savait qu'il complotait pour l'arrêter. Et cet homme était prêt à passer par ses difficultés. « Seigneur, je te suivrai. Peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qui se passe, peu importe la souffrance et la difficulté. » Ainsi, pourquoi est-ce que le Seigneur le rejette? Il est si prêt à venir à Christ, prêt à tout. Au verset 58, voici la réponse. Mais Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids. Nous aimons les oiseaux, et pas trop les renards. Que ce soit des animaux que nous aimons bien, ou d'autres que nous aimons moins, ils ont tous quelque chose en commun. C'est une maison. La terre, c'est leur maison. Parmi les branches, parmi les arbres et sur la terre, ils ont une demeure. Ils savent où aller, où trouver de la nourriture. C'est là leur demeure. Mais le Fils de l'homme, c'est le Messie, le Sauveur, le Seigneur, utilisé dans le livre de Daniel au chapitre 7 pour la première fois pour le Messie. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, je n'ai pas de demeure ici. Est-ce que tu vas me suivre, peu importe ce qui va se passer, je n'ai pas de demeure ici et je n'aurai jamais de demeure ici. Tu ne comprends pas. C'est là ce que Christ lui dit. Tu as les yeux fixés sur quelque chose qui est terrestre, comme les renards, quand on les poursuit, ils retournent dans leur tanière, ou les oiseaux, ils retournent dans leur nid. Mais ici, je n'ai pas de demeure. Voyez-vous ce scribe avec ses idées d'un messie politique? Il pensait que cet homme est le messie politique. Ils vont le haïr, ils vont lui résister, ils vont s'opposer à lui, mais avec sa toute-puissance, avec ses miracles, avec son enseignement, il vient de Dieu et il va remporter la victoire et il va rétablir Israël. Et il va se débarrasser de la puissance romaine et ce sera là le royaume le plus prospère sur cette terre à nouveau. Et parce que je serai près de lui, à son côté, alors je serai important. Peut-être je serai premier ministre, ou peut-être ministre des Affaires étrangères, peu importe comment il les appelait, ou chancelier. C'est là ce que Christ veut dire dans sa réponse. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Je ne suis pas de ce monde pour établir un royaume prospère, mais je suis venu pour sauver les âmes. Ainsi, Christ met son doigt sur le problème de cet homme. Ses yeux sont fixés sur ce monde, c'est là son problème. Et c'est pour cela qu'il est rejeté et qu'il se détourne. Il est volontaire et il est prêt, mais il a une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette église? Pourquoi est-ce que nous venons? Ou posons la question différemment, pourquoi est-ce que nous cherchons Christ si nous le cherchons? Pourquoi est-ce que nous recherchons le salut? Si la réponse est pour une meilleure vie, peut-être que si je suis chrétien, que je viens à Christ, et alors il peut me diriger, il est mon ami, alors il va me diriger, et j'aurai une bonne femme, j'aurai un bon mari, et quand je suis très malade, alors il va me guérir, il va me restaurer. Et alors, quand j'aurai des examens, il va m'aider et je réussirai mes examens. Il va me diriger et il sera souverain et j'aurai une vie meilleure, prospère. Et à la fin de tout ceci, peut-être que j'irai au ciel. Est-ce que c'est ainsi que nous pensons? Est-ce que nos yeux sont réellement fixés sur ce monde pour une meilleure vie, un meilleur avenir, une prospérité plus grande? Alors, nous devrons nous détourner, nous serons rejetés, parce que nous ne devrions pas venir pour ces choses. Nous devrions venir en disant, « Seigneur, je suis un pécheur, et je suis sous la condamnation, et je serai jugé éternellement pour ma vie, et je ne t'ai pas honoré, je ne t'ai pas aimé, servi, je ne t'ai pas cherché, je ne t'ai pas adoré, je ne t'ai pas donné ma vie. Seigneur, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin d'une vie nouvelle, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin de devenir chrétien, d'être converti, d'être transformé et de vivre, non pas pour ce monde, où bien sûr je dois remplir toutes mes responsabilités dans ce monde, mais je veux vivre pour le Seigneur, pour gagner les âmes des hommes et des femmes, et pour l'éternité, et pour plaire à Christ, pour l'honorer. Qu'est-ce que je recherche? Oh, ça ne suffit pas d'être comme cet homme qui a les yeux fixés sur ce monde, sur son avenir, sur sa position sociale et sa prospérité, mais de connaître Dieu, de venir à lui. Pour cela, vous avez besoin de la conviction de péché, de réaliser votre besoin d'être pardonné. Vous avez besoin de réaliser ce que Christ a fait à la croix du calvaire, en souffrant, en mourant pour les pécheurs. Au verset 44 dans ce passage, plutôt, « Pour vous, écoutez bien ces paroles, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Les scribes peut-être ont compris ceci mieux que les 12 disciples, mais cet homme avait ses yeux fixés sur ce monde. Et le deuxième homme, au verset 59, n'a pas de foi. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci répondit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. » Ceci n'est pas dit ici, mais il est également un disciple. Pas un disciple proche, bien sûr. Matthieu le dit, c'est un autre disciple qui le suit et qui considère tous les miracles, qui entend toutes les prédications. Il voit le Seigneur de près et il était là près de lui. Jour après jour, il a vu sa grande bonté quand il guérissait. Il a vu le cœur du Seigneur plein d'amour, sa compassion, sa bonté. Il a vu ses miracles. Il a vu sa puissance. Il a vu la puissance du Seigneur. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il a entendu sa prédication et il a vu sa sagesse. Il est infiniment plein de sagesse et il connaît toutes choses. Il a vu de tout près toutes ces choses. La bonté de Christ, sa puissance, sa sagesse divine. Mais il dit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. » Et le Seigneur lui répond, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Oh, ceci semble plutôt surprenant. « Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je pense qu'en considérant ce texte, il y a peu de doute à mon esprit que le père de cet homme n'était pas décédé. Si son père était mort, alors le Seigneur aurait été plein de compassion pour lui. Mais le père de cet homme n'est pas décédé. Son père est peut-être âgé. Peut-être que il pense qu'il peut décéder prochainement, peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, 3 ans, mais il n'est pas encore décédé. Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. Il ne veut pas simplement prendre quelques jours, mais il veut retourner à la maison et réfléchir. Cet homme, au verset 59, le Seigneur lui dit, « Suis-moi. » Il n'était pas volontaire. Il n'est pas venu au Seigneur en disant, « Je te suivrai partout où tu iras, comme le scribe. » Il n'a jamais dit cela. Il le suivait, mais il ne s'est jamais consacré lui-même. Et vous remarquez ceci, il n'a jamais fait de profession de foi. Il n'a jamais dit au Seigneur, « Me voici, je te suivrai. » Et il a dû être mis au défi. Le Seigneur lui dit, « Suis-moi. » Il ne voulait pas le suivre. Il n'avait pas prévu cela. Il aimait être là et voir les miracles, voir le Seigneur, l'entendre. Il l'appelait Seigneur, il croyait qu'il était le Messie dans une certaine mesure, Mais il ne s'est jamais consacré à Dieu, il était indécis. Et il n'était pas consacré, et le Seigneur devait le mettre au défi, et quand il a été mis au défi, immédiatement, il se retire. « Oh, Seigneur, attends un instant. Je rentre chez moi d'abord. Laisse-moi entrer à la maison, je vais ensevelir mon père. » C'est une manière de dire « Oh, je dois y réfléchir. Je dois peser le pour et le contre, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'être prêt à m'engager. Je ne suis pas sûr entièrement que je veux te suivre. Je vais simplement rester à la maison un peu plus et rentrer à la maison, voir mes amis, peut-être ceux qui boivent avec moi, ma famille. Oh, comment est-ce que je peux laisser ma famille et la communauté et mon village. Oh, j'aime bien ma maison et tout ce qu'il y a autour. Oh, je ne suis pas sûre de vouloir abandonner cela, d'aller à la campagne, de village en village pour représenter Christ. Non, laisse-moi réfléchir. Suis-moi. Ô Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. » Et c'est un grand problème pour lui. Sa famille et la maison n'est pas croyante, nous savons cela, parce que le Seigneur dit « Laisse les morts, c'est-à-dire les gens spirituellement morts, bien évidemment, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Tiens-toi pour le royaume de Dieu. Oh, je ne peux pas faire cela. Peut-être qu'ils sont spirituellement morts, mais j'appartiens là, et c'est là que sont mes racines et ma vie. C'est là une personne qui ne veut pas abandonner le monde. Il n'a pas suffisamment de foi. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir si j'abandonne ma vie ancienne et mon péché ancien et mes plaisirs anciens? Si je suis venu à Christ, que je lui ai donné ma vie, alors je serai malheureux. Je ne peux pas vivre sans ces choses. Et cet homme peut-être s'est dit, oh, représenter Christ et un prédicateur itinérant, comment est-ce que je vais vivre? Qui va me payer? Est-ce que Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin? Je ne suis pas sûr. Il n'a pas la foi. Ainsi, il se retire. Et il ne veut pas suivre Christ. Il ne se confie pas entièrement en lui, il ne se confie pas en Dieu. Est-ce que c'est là notre cas? Je veux être un chrétien, je veux que le Seigneur me pardonne mes péchés, je veux une vie nouvelle et je veux marcher avec Dieu. Je veux être un homme, une femme de prière et je veux aller au ciel. Je veux l'avoir lui, une nouvelle compréhension, une vie nouvelle, mais j'aime bien ma vie ancienne. Il y a des choses que je ne veux pas abandonner au Seigneur. Et il y a des péchés que je ne veux pas abandonner et je veux retourner et j'aimerais y réfléchir. Je vais peser le pour et le contre. Je ne suis pas sûre que le Seigneur prenne soin de moi, qu'il me transforme, qu'il me sauve. La foi est plutôt indécise, elle n'est pas là. Et nous devons prier pour la foi. Si la maison était en feu, imaginez que vous êtes un étudiant et vous devez travailler, vous devez étudier. Vous devez réviser pour vos examens, mais la maison est en feu. Je ne peux pas faire cela à présent. Je dois mettre ces choses de côté parce que c'est une urgence. La chose importante, c'est de sortir de cette maison et c'est comme le salut. C'est là une urgence. Je vais être jugé. J'ai besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin d'un but dans ma vie. J'ai besoin d'une vie nouvelle. Je dois venir à Christ. Je dois me soumettre devant lui et me repentir de mon péché, me confier en lui et l'invoquer pour qu'il me donne sa vie. Et moi, je considère encore ma vie ancienne. Ou si je peux utiliser une autre illustration, vous êtes dans votre maison et il fait nuit et vous regardez par la fenêtre et vous voyez un voleur qui vient avec un gros pied de biche et qui grimpe au-dessus de la barrière et vous dites « Oh, je vais descendre pour être bien sûr que la porte est fermée et que les volets sont fermés. » Vous dites pas « Oh, je vais attendre 10 minutes peut-être. » Il y a bien des années, il y avait une dame bien connue qui était journaliste, qui avait à peu près 60 ans et elle était docteur quand elle était plus jeune. Elle vivait seule dans une belle maison au centre de Londres et un jour, elle a réalisé qu'elle avait un arrêt cardiaque. Et elle savait que c'était ceci, et elle a appelé un ami. Elle lui dit « Je suis malade, je crois que j'ai un arrêt cardiaque, je vais appeler l'ambulance et je vais aller à l'hôpital. » Et c'était une femme pour qui l'apparence était importante. Et elle s'est dit « Oh, je ne peux pas aller à l'hôpital ainsi. » Et elle a commencé toute sa préparation. Oh, je ne suis pas critique par rapport à ceux qui aiment bien se préparer pour bien présenter, mais cette personne a commencé à se préparer. Elle n'a pas appelé l'ambulance avant 1h30 et elle est décédée dans sa salle de bain. Et ceci est très triste. Elle était bien connue à l'époque parce que ses priorités étaient mauvaises et son apparence était bien plus importante pour elle que sa santé. Mais nous pourrions être dans le même cas spirituellement. Si nous sommes indécis, nous ne confions pas dans le Seigneur et le temps passe et nous périssons spirituellement et nous sommes perdus et le cœur devient froid. Chers amis, ne soyez pas comme cet homme qui n'a pas de foi, mais priez Dieu pour qu'il vous donne la conviction et que vous puissiez réaliser votre besoin de lui et que vous ayez ce fardeau de votre péché et pour que vous soyez capable de vous confier en lui. Priez Dieu pour qu'il vous donne la foi. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi comme qualification, mais si vous lui demandez, il vous la donne. Et le Seigneur est si bon. Et rapidement, nous allons considérer le troisième homme dans cette liste au verset 61. Un autre lui dit aussi, c'est quelqu'un qui est volontaire à nouveau, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. » À nouveau, il est indécis. Il a déjà dit au revoir, sans aucun doute. Vous ne laissez pas votre maison pendant un certain temps en suivant Christ sans dire au revoir, mais à présent, il veut retourner pour dire au revoir à nouveau. Il est prêt à venir à Christ, mais jusqu'à un certain point. Il veut rentrer à la maison, il y aura une grande fête et ils vont le persuader de rester à la maison. Au verset 62, mais Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est point propre au royaume de Dieu. » Ce qui signifie cela, cet homme, ce disciple, voulait rejoindre l'œuvre. Il a dit aux autres disciples, « Donnez-moi quelque chose à faire. » Oh, il ne distribuait pas des tracts à l'époque, mais peu importe ce qu'il faisait, il s'est joint à l'œuvre. Il a mis la main à la charrue. Il aidait déjà. Mais à présent, il regarde en arrière. Il se dit, « Oh, comme le deuxième homme, si seulement j'étais à la maison avec ma vie ancienne, il n'est point propre au royaume de Dieu. » Bien sûr, personne n'est propre au royaume de Dieu. C'est uniquement par la miséricorde, par la grâce de Christ qui nous pardonne librement et qui prend la condamnation du péché à notre place et qui nous offre sa justice parfaite pour que nous puissions être qualifiés. Ce terme « propre » en grec signifie « bien placé » littéralement. Cette traduction « propre » est bonne. Il n'est point propre au royaume de Dieu. Mais en grec, c'est « bien placé ». Si vous regardez en arrière, vous n'êtes pas dans la bonne position pour que vos prières, le Seigneur y réponde. Si vous regrettez, vous n'êtes pas dans la bonne position. Vous n'êtes pas bien placé. Il y a une seule place dans laquelle vous êtes bien placé pour venir à Christ. C'est au pied de la croix du calvaire. C'est à la croix de Christ. Oh, je crois dans la croix de Christ. Quand Christ volontairement est allé à la croix, il s'est laissé arrêter et crucifié et fouetté et il s'est laissé mettre à mort et le Père a déversé sur lui toute la culpabilité de tous ceux qui croiront en lui, qui se confieront en lui dans toute l'humanité. Et c'est là où nous allons, sous son sang, au pied de la croix du calvaire. C'est là que vous serez bien placés pour venir à Christ. Et il ne vous rejettera jamais. Le scribe avait ses yeux fixés sur cette terre. Le deuxième homme n'avait pas la foi. Et le troisième homme a regardé en arrière. Ne faites aucune de ces choses, chers amis. Réalisez votre besoin du salut, votre besoin d'être pardonné et priez Dieu pour qu'il vous aide. Souvenez-vous que c'est là une question de vie ou de mort. Vous alliez au ciel ou en enfer, vous ayez la vie spirituelle ou la mort spirituelle, c'est une question d'être sauvé pour toute l'éternité ou d'être perdu. C'est une question de compréhension, de lumière, ou alors de continuer dans les ténèbres, dans ce monde, pour essayer de trouver le bonheur, mais sans avenir, sans destinée, combien nous avons besoin de Christ, combien il a fait pour nous, et combien nous devons venir à lui et croire en lui. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun ce soir, touche nos cœurs, Seigneur, amène-nous à Christ, pour que nous puissions réaliser notre besoin de lui et venir à lui et le trouver et le connaître. Ô Seigneur, bénis chacun et aide-nous ce soir même, nous te le demandons, dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.